Et là-dessus, on s'en va en Gaspésie pour la chronique livre avec Anne-Marie Aubin. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène.
Anne-Marie, un petit spécial Halloween pour ouvrir votre chronique.
Oui, en fait, aujourd'hui c'est le 31 octobre, on ne peut pas passer à côté.
Bien non.
Alors, je regardais parmi les nouveautés qui viennent de sortir chez Robert Soulière, il y a un recueil de nouvelles qui s'intitule « Plus de peur que de mal ». C'est un livre de 90 pages qui est dans la collection Graphici, donc qui s'intitule. Je dirais, ça s'adresse vraiment aux adolescents parce que c'est quand même des propos, je dirais, troublants, où la fin est assez ouverte. Et puis bon, finalement, ça va les déstabiliser. Je pense que, et c'est court, 90 pages, il y a plusieurs nouvelles. Donc, c'est quelque chose que les non-lecteurs sont capables d'apprécier. Et la page couverture est très parlante. C'est bleu marin. Puis on voit un oiseau là, qui a le nez vers le ciel et qui est pas un petit oiseau joli jaune canari, là, c'est vraiment dans les couleurs sombres qui peut faire penser aux corbeaux, aux corneilles ou enfin à quelque chose qui est sombre. Alors, c'est écrit par Mélissa Anctil, qui est une traductrice écrivaine qui a déjà publié pas mal de livres, surtout pour les jeunes. Elle a fait des contes dans la collection Ma petite vache à mal au patch chez Robert Soulière, un qui s'intitule Le chevalier et l'âne qui parlait, et l'autre, le chevalier et le dragon. Donc, elle est vraiment dans les contes classiques qu'elle modernise. Mais pour les ados, elle a déjà publié Gigi chez Soulière dans la collection Graphici, et Les règles du jeu, roman que j'ai lu aussi pour adolescents, très intéressant. Alors, elle a aussi un public donc presque adulte qui va apprécier l'étrangeté de ce recueil, qui réunit des titres comme Pop Citrouille, Le crâne, Oiseau de malheur. Alors moi, je vais vous mettre comment l'eau à la bouche avec la première nouvelle qui s'intitule « Pop Citrouille ». Alors c'est l'histoire de Manon Lemay, une jeune fille qui adore l'Halloween puis l'automne, et donc elle veut aller s'acheter une citrouille, elle s'en va au marché Jean Talon, puis elle choisit une grosse citrouille, puis elle a l'habitude, elle, de décorer sa maison d'une manière joyeuse, parce que l'Halloween, ça peut être à la fois amusant, mais aussi terrifiant. Alors, il y en a qui aiment les choses qui sont plus reliées à la mort, aux revenants et tout ça, mais c'était pas du tout ce qu'elle voulait faire. Donc, elle apporte sa citrouille, puis elle commence à faire le dessin avec un crayon feutre sur la citrouille pour la découper, mais elle s'aperçoit que le crayon feutre est comme, habitée par une force qu'elle ne peut pas contrôler. Donc, elle ne peut pas dessiner ce qu'elle veut. Et je la cite, « Le stylo feutre semblait mu par une force invisible et glissait sans cesse. Elle essuyait immédiatement les lignes puis recommençait, mais sans succès. »
Le stylo est tenté.
Oui, et donc la citrouille va être décorée d'une manière méchante, même si elle, c'était pas son intention. Mmh. C'est contre son gré. Et à partir de là, il va se passer plein de choses étranges autour de chez elle, dans son quartier, dans les rues, chez les voisins. C'est que la citrouille va bouger. Elle va se déplacer, puis elle va faire des sons. Par exemple, elle va faire des rots, des sifflements grossiers. Elle va faire du grabuge. Elle va invectiver les gens. Et puis là, bon, ben, tous autour vont commencer à observer cette citrouille, faire des plaintes, et ça va se rendre jusqu'au 911. Et puis, je vous dis pas le dénouement qui est des plus étonnants. Alors,
recueil de citrouille.
Ouais, tout à fait, de circonstances pour des gens qui voudraient lire quelque chose qui fait pas trop enfant, là. Ça peut être lu même par des adultes. Il y a des références à la littérature là-dedans que des grands, des lecteurs vont reconnaître. Bref, un recueil très intéressant de Mélissa Anctil chez Soulière Éditeur.
Merci beaucoup pour cette suggestion halloweenesque, intitulée, je le rappelle, « Plus de peur que de mal » ou « Plus de peur que de mal ». On sort de l'Halloween cette fois. Je ne sais pas, peut-être que vous avez eu peur en lisant « Sous un ciel vide » de Sarah Danielle Michaud. Je ne sais pas c'est quoi ce livre-là, quelle est son intention.
En fait, c'est très différent. On s'en va dans... Ça fait ailleurs, c'est un recueil de correspondances. C'est publié chez Somme Toute. C'est un petit livre de 88 pages dans la collection Les Littératures. Et c'est écrit par Sarah Danielle Michaud, qui est une Québécoise, et Mathilde Branton, qui est française. Alors, Sarah Danielle Michaud, elle a écrit quelques livres. Elle est née en 1980 à Montréal, puis elle enseigne la littérature au Cégep Saint-Laurent. Elle a fait des études doctorales en littérature comparée à l'Université de Montréal et postdoctorales en études françaises à Toronto. Et je crois que c'est là qu'elle a rencontré à Montréal Mathilde Branton, parce que j'ai vu qu'elle avait fait des études doctorales à l'Université de Montréal dans la littérature comparée à peu près dans les mêmes années, mais elle vit en France. Elle enseigne les lettres modernes au collège, qui est l'équivalent de la fin du secondaire, début cégep pour nous. Et ces deux filles ont échangé, sont devenues des amies, puis elles ont décidé de s'écrire. Alors, depuis longtemps, elles ont étudié ensemble, donc elles ont lu les mêmes auteurs. Elles ont la même passion pour les écrivains et les écrivaines. Et on les sent très UQAM, là. C'est je dirais que c'est les théoriciennes de l'UQAM qui sont là beaucoup. Je reconnais les lectures des gens qui étudient là. Et elle, Sarah Danielle Michaud, elle a écrit sur la conversion. Elle s'est intéressée à ça, le sacré dans l'écriture. Et ça se sent dans leur correspondance, mais en même temps, elles vont s'écrire sur des sujets du quotidien, leurs difficultés. Puis tout ça, ça s'échelonne sur 4 saisons. Il n'y a pas de date, il n'y a pas vraiment là, bonjour Sarah, comment vas-tu? Non, non, c'est des. On comprend parce qu'il y a des petits signes dans le livre qui nous font comprendre qu'on change de narratrice, mais elles se répondent, elles s'écrivent et on suit leur conversation dans ces extraits de correspondance qui vont, au fil des jours, apporter quelque chose à leur amitié, ajouter à leur amitié malgré l'océan qui les sépare. Parce qu'elle, elle vit étudiée à Montréal, mais maintenant, elle vit en France. Puis là, on commence en hiver et on va aller jusqu'au printemps. Et on est dans l'année de la pandémie parce qu'il est question du confinement à un moment donné. Elle va dire, je la sens ici, ah oui, je me sens engluée dedans, salie de partout. C'est peut-être parce qu'on est tous à l'arrêt. On nous a mis sur le bouton pause et les penseurs publics, créateurs de contenus médiatiques qui servent juste à nous faire bourdonner les oreilles jusqu'à en devenir cinglés, se sont empressés de faire les dindes et dire que ça ne pourrait plus être pareil après. Donc, ils sèment l'angoisse partout. C'est un petit peu ce qu'elle raconte. Donc, on traverse les saisons avec ces deux personnes-là qui ont finalement une grande facilité d'écriture. Elles lisent beaucoup aussi, ce sont des grandes lectrices, donc ils font référence à plein d'écrivains comme Clarisse Lispector, Annie Ernaux, Virginia Woolf, Jack Kerouac et plusieurs autres, et citent des passages de textes à mesure qu'elles lisent et elles s'envoient ça l'une à l'autre. Donc c'est un livre qui nous fait beaucoup réfléchir sur ces lectures-là, sur la place de l'écriture dans la société. Chez des femmes qui sont des mamans, qui sont des professeurs et qui cherchent toujours à faire sens avec leur écriture, à quoi ça sert. C'est pas toujours évident. Est-ce qu'elles écrivent pour elles, pour les autres, pour les institutions, pour faire plaisir à ton école qui te demande de publier? Il y a tout ça là, qui est en situation. Ça fait un livre intime, parce que de la correspondance, c'est écrit au jeu, puis ça s'adresse à une amie, donc on rentre dans leur intimité, dans une écriture qui est parfois poétique, parfois drôle, parce qu'il y a de l'humour entre les deux, on sent qu'elles ont une belle complicité. Il y a aussi beaucoup de sensibilité, d'ouverture à l'autre. Par exemple, le livre débute alors qu'elle est dans un monastère pour écrire. Ça, c'est la fille qui est au Québec. On imagine que c'est à Oka ou en Estrie. Puis elle s'est acheté un lampion et du chocolat. Je la cite. « Je l'ai acheté au monastère, le lampion, après une randonnée en raquette. Et j'ai pris des chocolats aussi, à l'érable. Je ne les ai toujours pas mangés. Alors, je ne sais pas ce qui fondra en premier, le lampion ou les chocolats. Mmh. » Donc, on est aussi dans des sujets du quotidien comme ça. Puis, la question de la littérature est évidemment tout le temps présente. Elle va dire « Je me suis toujours évadée par la littérature. Je lis énormément. Parfois pour être bouleversée, parfois pour caresser les murs de ce qui a été, parfois simplement pour être ailleurs, parfois pour comprendre. » Effectivement, c'est aussi ce pourquoi elles écrivent toutes les deux, parce qu'elles sentent qu'elles ont un rôle à jouer et que leur écriture les aide à vivre. Alors, cette amitié, malgré la distance, témoigne d'une belle complicité. Et ça, c'est admirable, parce que souvent, on connaît des gens, puis la vie fait que, on a chacun nos routes, et puis on se voit plus. Puis là, elles s'écrivent beaucoup, parce que quand même, pour trouver des textes à publier comme ça veut dire qu'elles ont choisi parmi une correspondance Et l'autre attend des nouvelles, répond. Ça crée vraiment, comment je dirais ça, une relation souvent qui est nettement supérieure à quelqu'un qui va vivre sur le même continent, que tu croises tous les jours, mais avec qui tu n'as pas le temps, ou tu ne te donnes pas le temps d'avoir une conversation et un échange aussi profond. Et moi, je pense aussi qu'il y a des choses qui se disent par écrit, mais pas forcément s'il était en train de prendre un café dans une terrasse à Montréal, par exemple.
C'est pas le même moyen de communication non plus.
Voilà, exactement. Puis pour qu'on poursuive, qu'on ait envie de répondre à ça, ben, faut qu'il y ait du contenu. Il ne faut pas que ça soit juste « il fait froid matin, c'est pas drôle ». Ouais. Bon,
le « small talk », comme on appelle.
Voilà, c'est ça. Puis elles ont une vie semblable parce qu'elles sont toutes les deux professeurs. Et j'ai trouvé que c'était intéressant pour des gens qui écrivent, qui lisent, qui enseignent, de voir comment tu peux avoir une amitié comme ça qui va aller au-delà du temps, parce qu'elles ont l'air d'avoir étudié ensemble autour de 2010-2011. Alors, ça fait plus de 10 ans. Puis elles disent, à un moment donné, dans le livre, ça fait plus de 15 ans que toutes les deux, on s'intéresse à Clarisse Lispector. Donc, elles ont suivi un cours peut-être il y a une quinzaine d'années ensemble, j'en sais rien. Alors, bref, une très belle histoire d'amitié, une belle histoire de correspondance qui va inspirer sans doute. Et j'aime bien le titre « Sous un ciel vide » parce que comme on parle du sacré, ben c'est comme si finalement le lien avec la religion, aujourd'hui, n'a plus vraiment de sens. Elle raconte ce que c'est les gens qui vont à l'église puis qui marmonnent des mots, mais tu sais, qui au fond, est-ce qu'ils sont dans le sacré? Qu'est-ce que c'est devenu? Alors elle, comme elle s'est beaucoup consacrée à ça, Mélissa Anctil, ben c'est en filigrane à travers ce qu'elle raconte dans ce texte-là.
Alors, il y a aussi un petit lien avec l'Halloween, puisqu'on goûte au chocolat.
Oui, c'est vrai, tout à fait.
Alors, « Sous un ciel vide » par Sarah Danielle Michaud et Mathilde Brantum. Merci pour cette découverte. C'est publié chez où?
Somme toute.
Chez où, oui. OK. Est-ce que vous célébrez l'Halloween aujourd'hui, Anne-Marie?
Ah, moi, je m'en vais enseigner. Je n'ai pas trop de célébration aujourd'hui.
Vous allez enseigner sans costume?
Non, absolument pas.
Peut-être que vous allez avoir des surprises
oui,
avec vos étudiants.
Oui,
ouais.
Ça va faire bien.
C'est la fête. Merci beaucoup, puis passez une belle semaine. À très bientôt.
À la semaine prochaine. Au revoir.